Qu'est-ce que cette annonce stupéfiante qu'au Danemark, 17 millions de visons étaient élevés, leader mondial de la production de visons, huile de vison, fourrure, etc. Alors, première information, c'est complètement absurde au moment de la biodiversité. Et c'est vraiment le type même de concentration animale dont il faut arrêter définitivement le fait.
Pourquoi ?
Mais parce que quand on avait une concentration d'animaux, eh bien, quand il y a un virus, vous mettez une allumette dans un puits de pétrole. Exactement comme vous avez 1 million de poulets ou 10 millions de poulets. Et les Chinois, concentrant leurs porcs, ont eu en 2019 200 millions de porcs atteints par le rougeole du porc, qui heureusement n'est pas passé à l'homme, mais ça a décimé le cheptel porcin. Donc notre habitude actuelle de transformer l'élevage en industrie alimentaire est une folie sur le plan infectieux. Qu'est-ce qui s'est passé au Danemark ? Au Danemark, 17 millions de visons sont soignés par des éleveurs de visons qui étaient porteurs du coronavirus comme tout le monde. Alors, passant les plats, les touchant, les prenant dans leurs bras, et ils ont contaminé les visons. C'est quand même la première fois que, au fond, les humains contaminent les animaux. Ce qui est passionnant, c'est que les visons ont été contaminés, mais ils ont muté le virus qu'ils avaient reçu de l'homme. Et ils ont retransmis à l'homme un virus un peu différent. D'ailleurs, ce qui pose un problème, c'est que si c'était cette nouvelle souche vaccinale danoise qui se répandait, l'essai Pfizer serait mis à l'eau. Donc, prudence absolue. Mais qu'est-ce que ça pose comme nouvelle question ? Ça montre que ce virus est capable de franchir non seulement la barrière d'espèce, mais de passer de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal. Revenons à la Chine. Le SRAS 1, en 2003, à Canton, on accuse la civette, petit rongeur, et on détruit les civettes. Alors qu'on s'est aperçu qu'en fait, la chauve-souris, c'était elle qui avait contaminé les civettes. Au fond, la banque des coronavirus, c'est les chauves-souris. Au début du XXIe siècle, au Moyen-Orient, on a un coronavirus qui atteint les porcs. Et les porcs vont contaminer l'homme. Et donc, la chauve-souris, le porc, l'homme. Même toujours au Moyen-Orient, coronavirus atteint les chameaux et l'homme. Donc, chauve-souris, chameau, homme. Chine, Wuhan. Chauve-souris en quantité considérable, avec des pangolins dans un marché immonde, avec des milliers de chauves-souris vivantes qui excrètent, qui urinent, et qui font un nuage d'aérosol viral. Et il nous manque l'espèce qui a pu éventuellement être l'intermédiaire, le chaînon manquant entre la chauve-souris et l'homme. Et donc, on l'a pas trouvé, on a été le pangolin, mais le pangolin, on n'a pas réussi à l'identifier. Et alors, l'idée que au Danemark, ce sont les visons, peut faire penser que depuis quelques années, il y a un élevage intensif d'animaux de fourrure en Chine, qui sont les raccoon dogs, qui sont une espèce de ratons laveurs, mais qui ressemblent plutôt à des chiens, mais qui ne sont pas des chiens, mais qui ont une très jolie fourrure. Et les élevages intensifs de ces animaux. Donc, quand j'ai vu ça pour le Danemark, je me suis dit, c'est pas impossible que peut-être une espèce animale qui ressemble un peu à un rongeur, qui est un animal très séduisant, avec un museau et une fourrure très très douce, avec ces élevages là encore à la Chine, c'est-à-dire des élevages industriels complètement ahurissants sur le plan sanitaire, peut-être ont pu jouer un rôle de transmetteur. On peut pas accuser, j'en ai aucune preuve, c'est pas moi qui travaille sur ces raccoon dogs, mais il faut trouver l'espèce animale qui a été le chaînon manquant. L'autre hypothèse, mais elle est qui a été pensé, c'était, un accident de laboratoire. Ça paraît vraiment très peu vraisemblable, d'abord parce que le SRAS, le MERS, le Nipah, les trois coronavirus sont arrivés par la transmission d'animal à l'homme sans que le laboratoire soit en cause. On imagine mal qu'un laboratoire qui travaillerait sur des cellules humaines et infectées ne prennent pas des précautions. C'est des scénarios qui sont toujours possibles, mais à mon sens, qui n'ont absolument pas la moindre début de preuve. En revanche, on peut imaginer que ce coronavirus aurait muté, comme on a pu le voir, alors qu'on pensait que le coronavirus était très stable, mais quand il passe d'une espèce à une autre, quand on passe de l'homme au bison, le virus mute quand il revient à l'homme. Et donc on pourrait imaginer, peut-être, que lorsqu'il est passé à l'homme, de façon absolument indistincte, et que ce coronavirus était présent de façon, ça profite, qu'il n'avait pas de caractère pathogène, peut-être qu'à un certain moment, une souche virale a muté et a trouvé la clé pour être capable d'agresser les cellules pulmonaires. Tout ça, ce sont des hypothèses, mais il faudrait travailler là-dessus. Et ce qui me frappe, c'est qu'autant on met des milliards de dollars sur le vaccin, des milliards de dollars sur les traitements, des milliards de dollars sur l'économie en perdition, et on met très très peu d'argent sur la transmission entre les virus chez les animaux et chez les hommes. Au fond, comme si ce que on appelle maintenant le One Health, c'est-à-dire que la santé animale et la santé humaine sont tellement intriquées, tellement liées, que si on veut affronter le futur avec intelligence, c'est en essayant de comprendre comment un virus peut passer d'une espèce à une autre, comment il peut ne pas passer, pourquoi telle immunité les protège. Et je pense que le bison, dans sa capacité de recevoir un virus et de le renvoyer à l'homme différemment, est une nouvelle donnée absolument passionnante et qui devrait nous ouvrir sur un horizon complètement nouveau de la santé animale et de la santé humaine.
Alors donc, on a bien compris que la première conséquence, selon vous, professeur Sicard, ce serait de réglementer ou d'observer différemment ces élevages animaux. Y en a-t-il d'autres ? Qu'est-ce que l'on pourrait, à ce stade évidemment, on ne sait pas précisément de quoi il s'agit, mais quelles sont les différentes hypothèses que vous pourriez faire ?
Le problème, c'est que le commerce d'animaux sauvages, il flambe depuis 5 ou 6 ans. Il flambe. Et il flambe dans un pays en particulier qui est la Chine. La Chine capture tout ce qu'il y a comme animaux sauvages en Afrique et les retravaille, les élève. Il y a une espèce de fringale étonnante en Chine de consommation d'animaux sauvages vivants qui est interdit par tous les traités internationaux mais qui pèse un prix considérable en Chine. On l'estime à peu près à 70 milliards de dollars. Et qui est très difficile à arrêter parce que c'est un marché souterrain. Et dans un pays quand même réglementé, totalitaire comme la Chine, la liberté de se nourrir, la liberté de pouvoir avoir des animaux reste très grande. Et que si un gouvernement commençait à réglementer de façon excessive le commerce des animaux sauvages en Chine, je pense qu'à ce moment-là, il y aurait sinon des révoltes, mais une protestation. Au fond, la Chine a dévasté il y a plus de tigres au Laos, il y en avait encore il y a quelques années parce que un train TGV qui franchit la forêt primaire. Au fond, les Chinois ont une relation aux animaux vivants exotiques très très spécifique dans le monde. C'est pas la même chose que je sais pas les Américains, les Européens ou même les Africains. La présence de la Chine en Afrique a véritablement drainé tous les animaux sauvages. On l'a vu, les rhinocéros ont disparu. C'est pas les Européens qui ont fait disparaître ni les Africains qui ont fait disparaître les rhinocéros, parce que leur corne était un produit aphrodisiaque pharmaceutique en Chine. Donc il y a une espèce de culture de l'appropriation d'animaux sauvages vivants. Et il y a eu un rapport récent qui a d'ailleurs été publié par un journal, je crois le Figaro, il y a deux jours. Par un groupe international d'études sur les animaux sauvages vivants, la biodiversité, qui sonne vraiment la sonnette d'alarme, parce que cette vision infiniment simpliste en disant « oui, bon, les animaux, c'est peut-être secondaire », c'est aussi grave que l'héroïne, c'est aussi grave que la drogue. Et en termes d'épidémie, c'est probablement celle qui serait la plus grande menace pour l'humanité. Et s'il n'y a pas un sursaut réglementaire, mais un sursaut qui soit de nature très contraignante. Et même pour nos pays, je pense que si on fait des élevages gigantesques de tel ou tel canard au nom de l'économie industrielle, eh bien, je trouve qu'on joue avec le feu. Ça n'a aucune importance d'avoir un petit élevage. Je vais avoir, par exemple, la ferme des 1000 vaches, comme j'avais entendu parler il y a quelques années, est une absurdité sur le plan, non pas économique, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, mais c'est une absurdité quand une maladie existe sur une vache, elle est diffusée à l'ensemble des 1000 vaches. Je trouve qu'il y a une espèce de d'ignorance et de désinvolture par rapport à la capacité humaine de comprendre que les maladies, elles se diffusent. Pourquoi est-ce que au XXIe siècle, on a ces épidémies? On a ces épidémies parce que il y a une concentration d'animaux sauvages vivants dans un pays ahurissante en termes de nombre. Que ça arrive dans les grandes villes, 12 millions d'habitants, concentration humaine, avec des problèmes de transport aérien, ferroviaire extrêmement rapide. On a toutes les conditions permanentes pour que les virus, on leur offre un paradis sur Terre. On leur offre une capacité de diffusion qui n'a jamais existé ailleurs.
Et le rôle des chauves-souris, parce que vous disiez tout à l'heure, les chauves-souris hébergent les coronavirus. Alors, apparemment pas qu'elles, mais est-ce que sont les réservoirs originaux? Oui. Est-ce que l'on comprend bien ce mécanisme qui fait que...
Les chauves-souris ont une écologie très particulière, elles sont extrêmement nombreuses, peut-être 20 ou 30% de l'ensemble des mammifères, on parle de plusieurs milliers d'espèces. Et elles ont établi avec les coronavirus un gentleman agreement depuis des siècles. Et les coronavirus aiment bien les chauves-souris, mais n'arrivent pas à les agresser. Et au fond, le but d'un virus, c'est en même temps pas forcément de détruire son hôte, mais de vivre en bonne entente avec lui. Et ces chauves-souris, qui vivent très longtemps, 30, 35 ans, ont un système immunitaire, peut-être lié à leur capacité de vol, qui les protège contre les coronavirus. Mais quand elles sont en situation de détresse dans un marché, elles toussent, elles crachent, elles urinent, et donc elles envoient les coronavirus qui, elles, ne les touchent pas, elles sont parfaitement saines, on peut les manger, mais elles envoient des aérosols viraux, et on peut imaginer que si dans l'espace qui les entoure, il y a d'autres espèces animales qui, comme les visons, au Danemark, sont sensibles et reçoivent ces aérosols viraux, eux-mêmes mutent à l'intérieur, le virus mute à l'intérieur de ces animaux et renvoie à l'humain un virus un peu différent qui ne serait incapable de passer directement de la chauve-souris à l'homme.
Est-ce qu'il y a d'autres espèces? Parce que vous parliez de la ferme des 1000 vaches. On voit bien qu'on a dans nos contrées des élevages qui sont des élevages industriels. Est-ce que ce que l'on risque, c'est par exemple un nouvel épisode, je ne sais pas, de peste porcine, par exemple? Vous l'évoquiez.
Sûrement. La peste porcine, elle est une menace permanente. Elle peut arriver. Bon, l'avantage, c'est qu'elle ne tue que les porcs et pas les humains. Mais on pourrait imaginer.
Justement, est-ce qu'on peut imaginer une zoonose, autrement dit?
Mais évidemment. C'est une certitude.
C'est pas une question.
Et si vous voulez, je voyais il y a quelques jours qu'on commençait à accuser ces pauvres oiseaux sauvages. Migrateurs en disant c'est scandaleux, il faut quand même les tirer parce que ils vont être malades, on les retrouve sur les plages, vous vous rendez compte comment ils vont infecter nos élevages. Évidemment, mais si on a 100 000 canards sur 200 mètres carrés, 1 million de poulets, évidemment que cet oiseau migrateur qui va jeter un peu de virus va mettre le feu. Le problème, c'est d'avoir des élevages raisonnables pour que on n'ait pas le sentiment que ces oiseaux migrateurs vont être des oiseaux de malheur. Au fond, il faut qu'on s'habitue, désormais, à considérer que la genre animale doit être respectée dans ses capacités naturelles de ne pas les concentrer de façon telle qu'on crée les conditions d'une épidémie à venir. Et je pense qu'on n'est même pas dans des hypothèses, on est dans des certitudes que nos conditions de concentration animale, concentration urbaine et transport vont permettre à des virus qui sont tranquillement en train d'attendre leur moment, leur destin, et vont nous... Et le vaccin sera toujours une réponse merveilleuse, mais une réponse un petit peu comme les carabiniers dans Aïda, c'est-à-dire ils arrivent trop tard. Allons, mais le problème c'est d'arriver à anticiper Et c'est pour ça que les vétérinaires sont des professionnels très importants. Il faudrait que la médecine et les vétérinaires s'associent dans ce domaine, pas forcément dans le domaine du cancer ou de la, mais pour travailler ensemble.
Mais alors, pourquoi la Chine, puisque vous évoquez la circulation des animaux sauvages, des marchés d'animaux sauvages en Chine, pourquoi la Chine n'en prend-elle pas conscience, puisque
elle en prend conscience, mais elle est extrêmement embarrassée. D'abord, elle n'a pas tellement envie qu'on découvre le poteau rose, qu'on découvre l'arme du crime, parce qu'ils auraient l'impression que leur responsabilité, au fond, de désinvolture soit remise en question, et qu'ils ne supportent pas que des équipes internationales travaillent là-dessus. Il y a quand même un élément, c'est que le 2 janvier 2020, le marché a été nettoyé en catastrophe en quelques heures. C'est-à-dire qu'ils savaient très très bien qu'il ne fallait surtout pas qu'on puisse apporter la preuve. Alors, dans n'importe quel pays, il y aurait eu des prélèvements pour savoir un petit peu comment procéder. Là, il y a eu une espèce de... On fait disparaître éventuellement les éléments. Mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile pour les Chinois. Il y a une loi, et les Chinois ont pris une loi d'interdiction du commerce des animaux sauvages, et il n'a jamais été aussi florissant. C'est pas parce qu'une loi existe que, fortement, matériellement, elle est efficace.
Mais vous mettez aussi en garde, professeur Sicard, les élevages. Donc, alors, on le voit aussi bien de visons que d'autres animaux chez nous, dans nos contrées, doivent également soulever le même type de vigilance.
Absolument, absolument. Et je crois que il faut désormais penser que l'élevage industriel est une menace infectieuse et que, quelles que soient les précautions, on ne peut jamais écarter qu'un agent viral extérieur peut rentrer dans cette... Et que le vison danois, à mon avis, est la meilleure nouvelle qu'on ait pu entendre depuis plusieurs mois, en dehors du vaccin. Mais je dirais qu'entre l'aval du vaccin et l'amont de la chauve-souris et du vison danois, je pense qu'on commence à comprendre le puzzle.
Est-ce que ça veut dire que la prise de conscience chez les politiques en matière de politique sanitaire, parce que on a évoqué toutes sortes de choses, du masque au vaccin, mais ça, par contre, c'est quelque chose qui...
Et oui, mais comment voulez-vous qu'on dise à la Chine qu'il faut interdire ces élevages d'animaux à fourrure, dans l'hypothèse... Ils nous diront, mêlez-vous de ce qui vous regarde.
C'est pas seulement ce que vous dites aussi la ferme des 1000 vaches et
oui, mais absolument,
modèles.
Mais absolument, c'est de considérer que l'économie d'élevage est une économie qui, pour être rentable, ne doit pas forcément se faire au détriment de la santé des humains. Et que c'est pour ça que je pense que les vétérinaires ne sont pas suffisamment présents, pas suffisamment entendus, pas forcément aussi respectés, reliés, alors que ce sont des... C'est une profession très savante, qui connaît beaucoup de choses et que nous ignorons. On pense toujours que la santé humaine, elle est très différente de la santé animale. Au fond, nous sommes une espèce vivante avec une proximité dont on devrait découvrir justement les éléments inquiétants.
Professeur Sicard, je vous présente mes deux camarades qui viennent prolonger cette émission, Hervé Gardette et Géraldine Mosna-Savoie, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Hervé, de quoi allez-vous nous parler ?
D'individus et d'individualisme.
Et vous, Géraldine ?
Oh, de liberté, en toute simplicité.
Dans quelques instants.